Max. Non, je sais pas, ça ne passe pas. Pourquoi je dis ça à chaque fois? Mais hey, la gang, bienvenue dans La Terre est plate. Pour interrogation? Question mark. Parce que la Terre est plate, c'est question mark. Les exclamations sont merveilleuses. Question mark. Est-ce que la Terre est plate? Ce merveilleux jeu de mots qui veut dire la Terre est pas plate, vous allez voir. Puis en même temps, qui veut dire qu'il y a du monde qui pense que la Terre est flat. Les flat earthers. Flat earthers. Que je trouve original, que je trouve mignon. Essayez de confirmer que la Terre est plate, il faut que tu te lèves tôt en salle. C'est assez merveilleux, là. Leur explication du cercle polaire, tout ça. Là, si vous ne connaissez pas ça, allez voir, écrivez Flat Earthers. Allez voir leur philosophie, là, ça fesse dans le dash. Ils sont cool. Ils sont cool par leur imbécilité, mais aussi par leur ingéniosité à essayer d'expliquer que la Terre est plate. C'est assez exceptionnel. Puis c'est vraiment un mouvement. Les gens ne savent plus quoi suivre comme mouvement. Les gens veulent de quoi d'original à suivre, je pense. Fait qu'ils commencent par des patentes comme Flat Earthers. On est le 17 janvier. 17 janvier est une journée particulièrement exceptionnelle dans le monde de l'histoire de l'humanité. Parce que, oui, s'il vous plaît, on veut des claps. On veut des claps. Est-ce que c'est une journée qui est exceptionnelle?
C'est beaucoup trop de boules.
Non, c'est pas une journée exceptionnelle parce qu'il y a trop de boules. C'est une journée exceptionnelle. Pourquoi?
I was a really good student at the best school. I'm not like a smart guy.
Oh, you're a smart guy. Mais c'est pas pour ça, Trump, que c'est une journée exceptionnelle.
Why does every time I say I'm a feminist, the Twitterverse explodes and news media pick it up? It shouldn't be something.
Oui, merci Trudeau. Mais non, c'est pas la raison que tu penses que tu es un féministe aussi. Aujourd'hui, madame, messieurs, drum roll. Non, pas ça, drum roll. Oui, c'est la fête de mon fils Antoine. C'est la fête de Titi. Oui, tu sais, il y a toute une histoire du fait qu'il s'appelle Titi. Je sais pas, il n'aime pas ça qu'on l'appelle Titi. C'est sûr qu'aujourd'hui, le 17 janvier 2019, Antoine a 16 ans. 16 ans. Antoine qui vit avec moi, qui a 16 ans, qui est à l'école au moment où on se parle pendant que je fais le show. Mais on l'appelle Titi parce qu'il y a une historique là-dessus. Là, t'sais. Quand il était dans le ventre de sa mère, Karen, il poussait sur... ses pieds sortaient. Si vous avez été enceinte, si vous êtes une femme, ou si vous avez été un homme autour d'une femme enceinte, sur le conjoint ou un membre de la famille, souvent on peut voir littéralement vers le 6, 7, 8e mois, on peut voir des... Ah, puis des mois, en passant, des mois, là, on ne dit pas ça quand on est enceinte. Hein. Les femmes enceintes, ils fonctionnent en semaines. C'est un an, leur reste de semaines, sincèrement. Ils n'en reviennent pas des semaines. Moi, j'ai toujours pensé qu'un bébé, c'était 9 mois, OK? Mais si tu calcules en semaines, c'est quasiment 700 ans, cette histoire-là. Et tout se passe en semaines. Les mères savent exactement qu'est-ce qui se passe rendu à la semaine où ils sont rendus. C'est assez pété comment c'est important de suivre les semaines. Donc, les semaines. Donc, c'est ça. Donc, vers la fin de la grossesse, tu as le bébé qui shake pas mal. C'est impressionnant. Là. Des fois, là, tu peux déceler vraiment une partie de son corps qui pousse sous le ventre de la mère. Tu vois un talon, tu vois, c'est vraiment débile, c'est vraiment bizarre. Puis Antoine, donc, il poussait avec ses pieds vers l'intérieur de l'utérus, j'imagine. De l'utérus, c'est ça? Je voulais dire une connerie, ça. Ben non, c'est ça. Et puis, donc, dans sa patente, puis Antoine, il poussait, puis ses fesses sortaient. Donc, on l'appelait Tibot. Petite fesse, Tibot, un bot qui est dans des fesses. On l'appelait Tibot parce qu'on voyait tout le temps ses fesses. Et il bougeait sacrément dans le ventre de sa mère. Puis on voyait tout le temps une petite fesse de Tibot. Ce qui fait qu'on l'a appelé Tibot longtemps. Titi, Titi, c'est fini Titi. Donc c'est fini Titi, on l'appelle Titi. Non comme l'homme qui m'appelait. Écoute, quand j'étais jeune, c'était un ami de la famille, c'était un grand-père. Puis moi, je passais par le champ, puis je me rendais chez eux, puis il travaillait dans sa chaîne. Ça a l'air louche jusque-là, mais ça ne l'est pas. C'est un homme assez sympathique. Du moins, il l'était avec moi. J'ai appris plus tard que c'était un homme assez violent avec ses enfants. Mais en tout cas, du moins, avec moi, il était fin. Il m'appelait Titi Bleu Bleu Vert Vert. C'est assez fucké, ça. J'en ai comme jamais revenu. Il m'appelait Titi Bleu Bleu Vert Vert. Je veux dire, c'est hot en même temps. C'est weird, mais c'est hot pour un homme. Écoute, il devait avoir 80 ans à l'époque. J'arrivais et disais, si c'est pas Titi Bleu Bleu Vert Vert. Titi Bleu Bleu Vert Vert. C'est original en calvaire, mais oui. Donc, on ne parle pas du même Titi ici que Titi bleu, bleu, vert, vert. On parle de Titi, mon fils. Donc, bonne fête, Antoine. Félicitations pour le simple fait que tu t'es rendu jusque-là. Oh, tout le monde, qu'on est rendu quelque part, ça. Hein? Oui. Impressionné. Puis Antoine, en passant, qui veut aller vivre au Japon. Antoine qui veut vivre au Japon, sincèrement. Là, il apprend le japonais, il dessine des mangas. Il aime le look des japonaises aussi. Il trouve qu'elles sont jolies, effectivement. Ce sont des belles femmes, les japonaises. Puis il veut vraiment aller vivre là. Donc, on essaie de travailler sur un programme pour qu'Antoine aille vivre au Japon. Anyway. Donc, le gros bonheur sale. Félicitations, mon fils, pour être né en 2003, le 17 janvier, d'avoir 16 ans aujourd'hui. L'âge de conduire, ou du moins de passer proche. L'âge de bien des affaires à 16 ans, là, s'ils savaient tout ce qu'il avait le droit, là, ça serait l'anarchie. Donc, je ne vais pas y parler de tout ce dont il a le droit. On commence le show, plein de petits sujets le fun, des nouvelles. Vous allez chercher une couple d'affaires assez intéressantes puis qui influencent le cours de votre vie sans que vous le sachiez. Non, mais ça, allez voir, c'est intéressant. On commence right now. Oh yeah! End of Mathurin Farm, on ne fait pas semblant, c'est ce qui se passe. Moi, la ferme à Mathurin. Quelqu'un ne connaît pas la ferme à Mathurin. Donc, c'est officiel, ils ont eu une espèce de consortium mondial. La nouvelle est sortie. Je l'ai pris sur BBC, mais elle était partout. Je pense qu'elle était partout. Donc, ils ont fait officiellement. Ça y est, ils ont pris, je pense, c'est 37 spécialistes de travers le monde. Ils les ont réunis sous un seul mandat. C'est-à-dire de faire la diète pour sauver l'humanité, carrément. Là. On parle de la diète, donc ce qu'on doit manger, du moins une espèce de charte de ce qu'on doit bouffer, comme la charte canadienne là, où on bouffait tant de porc de lait, petit. Bon, on va revenir sur la charte canadienne qui, en passant, est un sacrement de fraude. Mais donc, c'est ça, ils se sont mis ensemble avec deux objectifs principaux. Premièrement, d'avoir un repas équilibré, donc d'avoir vraiment quelque chose d'équilibré qui te fait vivre et même bien vivre, c'est-à-dire que tu peux normalement constituer, grandir, avoir des muscles, être fort, puis faire l'amour. Donc tout est nécessairement bien couvert avec ça au niveau alimentation. Et deuxièmement, pour pouvoir soutenir une terre absolument débordante d'êtres humains, on parle de 10 milliards d'êtres humains bientôt. Donc, c'est les deux objectifs-là, en disant, écoute, il va y avoir beaucoup de monde sur la Terre, il faut faire attention. Donc, si vous n'êtes pas nazi et vous voulez éliminer les gens inutiles, si vous voulez continuer à grandir, à ce moment-là, il va falloir trouver une façon de bouffer. C'est ce que ces spécialistes ont fait là. Fait qu'ils sont arrivés avec un repas, justement, facile à faire, donc qui peut nourrir tout le monde, qui peut être cultivé sans blesser la planète. C'est très important de ne pas blesser cette planète, cette gentille planète qui est facilement blessable. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de nourrir près de 10 milliards de personnes, 10 milliards de personnes donc en santé, à un coût qui est minime, parce que, bon, on parle de majorité de la planète. Passant, vous vivez dans votre luxe, dans votre gros SUV, avec votre salaire, vous capotez parce qu'il y a des dettes sur la carte de crédit, puis vous trouvez que vous faites pitié comparé à toutes les gens que vous voyez à la télévision, au Kim Kardashian, au Kanye West, au divorce du gars de Amazon, qui a un divorce le plus lucratif de l'histoire, 147 milliards de dollars à partager avec sa dear spouse. Donc, vous dites, je fais pitié. Non, la majorité de la planète, en passant, n'a pas d'argent. La majorité de la planète, je pense, vit que 7 piastres par semaine. Donc, c'était aussi ça. Fait qu'ils sont arrivés avec ça. Ils sont arrivés avec le plan, la diète. Ça y est, là, c'est officiel. Ça y est, on sauve l'humanité avec ça. Voici ce que ça donne au niveau, clairement, au niveau des par jour. Là. On dit des noix, 50 grammes de noix par jour. Des beans, c'est-à-dire des fèves de toutes sortes, là, les fèves, les légumineuses, dans le fond, 75 grammes. Du poisson, 28 grammes par jour. Des œufs, 13 grammes. De la viande. Puis en passant, c'est le fun parce que c'est pas... Je suis surpris un peu, c'est pas végétarien. Tu sais, ce genre de monde-là, quand ils se réunissent, j'avais l'impression et la crainte en lisant la nouvelle pendant allant voir ce qu'ils avaient constitué comme menu, que ça allait donner une espèce de patente avec du tofu à fond, là. De faire attention à la planète, de ne pas faire mal à personne, de ne pas faire mal aux animaux, de manger uniquement de l'herbe, du gazon puis de la tourbe. Je pensais que ça allait être ça. Mais non, tu vois, il y a de la viande, 14 grammes par jour, des carbs, donc du grain entier, du riz, c'est ce que sont des carbs, donc des carbs, 232 grammes. Dairy, donc les produits laitiers, 250 grammes, ce qui équivaut selon eux à un verre de lait. Les végétaux, des végétaux. Donc, les légumes, 30 grammes. Ou les fruits, 200 grammes. Donc, il y a de la place. Puis, ils disent que dans la diète, on peut ajouter 31 grammes de sucre, 50 grammes d'huile d'olive, si ça nous tente. Donc, il y a de la place pour ça. Avec ça, mais c'est original, pareil. Je prends la nouvelle avec ironie parce que souvent, c'est tellement gros comme projet. Là, parce qu'il explique dans l'article, effectivement, puis le journaliste dit que pour que ça fonctionne, il faut que tous les pays de la Terre se mettent ensemble dans le régime en question qui cultive les bonnes choses en même temps qu'on consulte. Ça n'a pas de sens. Là. C'est, on a de la misère à s'entendre pour ne pas se péter à gueule ici, localement, entre voisins. T'sais. La misère à ne pas envoyer chier notre voisin quand il dépasse un peu et que sa tondeuse. Là, qu'on parle d'avoir une humanité qui est d'accord sur le même repas, ça, juste en partant, ça n'a aucun sens. Mais l'exercice, du moins, est mignon. Puis ils sont allés quand même assez loin. Ils ont fait des repas. en disant, écoute, voici ce que peut correspondre, ce que je vous ai nommé, tu sais, parce que moi, vous me donnez les 50 grammes de ci, les 30 grammes de ça, les plus aucune idée, c'est quoi. Mais ils ont fait des repas, puis ça a l'air bon, là. Ils ont fait des patentes, là, ça a l'air absolument débile. Donc, le prix est bas, la nutrition est bonne, c'est-à-dire que vous avez tout ce que vous avez besoin pour survivre avec cette patente-là. Puis, là, la planète n'est pas blessée. Donc, on fait pas mal à personne. On fait pas mal à la planète. Donc, les repas semblent bien. Ce n'est rien que vous les décrivez, mais ils semblent intéressants. Donc, tu sais, c'est ça, là. C'est bien, c'est une belle patente. Puis, ça revient à ce que je disais au début. Je vous ai dit, je vais revenir là-dessus. Puis ça, c'est... En même temps, je mets une bémol sur tout ça parce que vous l'avez rappelé, le guide canadien pour bien manger, on l'a appris quand on était kid. Moi, j'ai 40 ans. Je suis né en 1978. Et quand j'étais jeune, on nous a cassé la tête avec deux affaires au primaire. En passant à deux affaires, je ne sais pas si vous avez vécu l'autre patente, vous autres. Ça m'a traumatisé, moi, le fluor. Dans le temps, j'étais à Gatineau en deuxième année. Et il y a eu. Parce que vu que j'étais à Gatineau, je ne sais pas si dans la ville de Québec ou à Montréal ou ailleurs, j'imagine qu'il y a eu le même programme. Là. Il y a eu un buzz sur le fluor. Donc, on avait dans nos... C'était une fois par jour, donc en après-midi. Peut-être que même parce que... Peut-être qu'on a été ciblés parce qu'on était une école pauvre. Genre, on n'avait pas de fluor. Je sais pas. Anyway. Donc, on avait un espèce de petit sac. Je sais pas si vous vous rappelez. C'était humiliant comme patente. On avait un petit sac d'aluminium. On ouvrait le bord. On se gargarisait tout en gang. Donc, le professeur dit 1, 2, 3. On déchirait le sac ensemble. Puis on faisait tout ça ensemble. Je vous épargne le bruit dégueulasse qui peut ressembler à peu près à 8 choses différentes, donc dont une masturbation intensive. Donc, on faisait tout ça en même temps, puis on recrachait dans le même petit sac. Tu sais, c'est pas évident de recracher dans le même petit pit, là. Tu sais, c'est un petit sac un peu, ça ressemblait à, tu sais, les lingettes humides, là, chez Saint-Hubert, quand tu finis de manger comme un cochon tes ribs. Ça ressemblait à ça, le petit paquet. On recrachait là-dedans, puis on virait les coins, puis là, ben, on a fait ça pendant un an, je pense. Mais je sais pas si tout le monde a vécu ça, ou on était juste un coin qui avait des dents pourries. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi nous autres on a fait ça, mais c'était assez traumatisant. Ça, puis la dentiste qui venait avec un géant dentier puis une grosse brosse à dents, on l'a tout vu. Le dentiste l'avait aussi, mais il y a l'hygiéniste qui venait dans les écoles qui faisait ça. Puis non plus gênant que ça. Ça, je sais pas si vous autres, vous l'avez vécu. Mais il venait, puis je sais pas si c'était bénévole. J'espère que c'était pas bénévole, mais c'est-à-dire que les gens soumettaient leur candidature pour ça. Les jeunes allaient en avant. Ils mettaient une genre de pilule dans la bouche, puis si tu avais du tartre, ta gueule devenait fluo rose. Je sais pas si vous vous rappelez, hein? Ta gueule devenait fluo rose. Quelle gêne! Tu sais, t'avais tout le temps le cochon de la classe qui était tout le temps plein de crottes de nez, puis qui les mangeait, qui arrivait en avant, il donnait une pilule, puis il avait la gueule fluo, là. Tu sais, genre, écoute, le gars, il se brossait pas souvent les dents pour lui. Fait que ça, c'est comme une... Il y avait toutes sortes d'affaires de même. Tu sais, je sais pas, on vivait ça, on vivait notre... Je sais pas si pourquoi il voulait nous laver tant que ça, cette année-là, dans ma classe. On avait de quoi de cochon, je sais pas ce qui se passait. Donc, il y avait ça, puis le fameux guide canadien de l'alimentation. Et ça, on se l'est fait casser la tête. Et on a appris plus tard, on a appris quand le monde a commencé à arrêter d'être brainwashed par les mêmes patentes, que c'était des lobbies derrière ça. C'est-à-dire que le lobby du lait, le lobby des œufs, le lobby de la viande, tout le monde avait comme tiré sa couverte pour qu'on ait, genre... Parce que, tu sais, quand tu regardais ça, c'était comme full équilibré. Il fallait quasiment prendre 500 verres de lait par jour, tuer une vache, boire son sang, boire, manger un pain de 15 pieds. Tu sais, c'était assez intense, cette patente-là. Puis il disait que si vraiment quelqu'un faisait cette diète-là, il allait avoir des problèmes cardiaques ou des problèmes de bien des affaires. Fait que c'est pour ça que je prends cette patente-là, cette nouvelle merveilleuse patente-là avec un certain recul. Mais elle semble plus équilibrée. Tu sais, on n'est plus là. On n'est plus dans le temps où c'est qu'ils pouvaient nous convaincre de manger des affaires absolument dégueulasses. Puis c'est ça. Fait que je sais pas ce qui s'est passé cette année-là dans mon école. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé avec moi à l'école dans le temps? Louis Régimbal, si tu m'écoutes. C'est quoi le problème? On était pas propre? C'est quoi le fuck, là? C'est quoi le fuck? Fait que, donc c'est ça. Alors, si vous voulez voir le nouveau menu, je sais pas qu'est-ce que vous pouvez écrire. Ça s'appelle Flexitarian. Flexitarian Diet. Flexitarian. Damn, ouais. Même le nom est incroyable. Même le nom est débile. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York. Il y a, de ces temps-ci, il y a tout le monde, je pense, en tout cas, ceux qui suivent le moins dans mes nouvelles connaissent Rudy Giuliani. Il y a deux Rudy Giuliani. sincèrement. Puis à partir de maintenant, là, c'est officiel, il y a deux Rudy Giuliani. Il y a celui pré-Trump, puis il y a celui post-Trump, après Trump. Je m'explique, vous allez voir. Rudy Giuliani, moi, j'étais un homme que j'admirais énormément. Pourquoi? Parce que il est arrivé dans une ville qui était New York dans les années 80. Il était procureur pour l'État de New York, premièrement. C'est-à-dire qu'il amenait en cour, c'est le procureur en chef, donc il amenait les gens en cour pour des crimes. Ou bien, du moins, il les amenait personnellement, peut-être pas, mais c'est lui qui supervisait ça. Après ça, il a été maire de New York. Et le New York que vous connaissez aujourd'hui n'est pas du tout le New York des années 80, 70 et 60. C'est pas encore moins les années 1900 avec les gangs of New York, ça, là, mais je parle des années 80-90, le New York qui a existé était, mais ma foi, violent. Vraiment violent. Là. C'était plus une ville qui ressemblait à Miami, plus une ville qui ressemblait aux villes du sud américain, Atlanta, Saint-Louis, toutes des villes, ça c'est le Midwest, mais des villes plus violentes. Donc New York était vraiment une ville dangereuse. Tu sais, c'était le cas. Tu n'allais pas te promener le soir dans le Bronx ou dans le Queens. C'était énormément chargé de racisme. C'était un endroit vraiment violent. Il y avait des meurtres en quantité industrielle, la violence, la corruption surtout aussi. Parce que, bon, souvent, lorsque la violence est si présente, c'est parce que la corruption est présente. Les policiers ne font pas leur travail. Ils ne font pas nécessairement ce qu'ils doivent faire. Et souvent, la majorité des policiers ou la majorité des êtres humains ne sont pas corrompus. C'est tout le temps un minimum de gens qui le sont. Il y a tout un pourcentage, le même, partout sur Terre, qui sont corrompus. Mais tout dépendant de ce qu'ils ont comme autorité au-dessus d'eux, ben, ils mènent la gang ou pas. Puis dans ce cas-ci, dans les années 80, mais ils menaient, littéralement. Et il y a un gars qui est arrivé qui s'appelait Rudy Giuliani. Donc je parle de l'ancien Giuliani, j'admire, c'est lui. Il est arrivé à New York et il t'a fait un sale ménage. Il t'a fait un sale ménage dans cette ville-là. Tellement qu'aujourd'hui, quand vous allez à New York, c'est une ville « safe ». C'est une ville propre, c'est une ville qui est... C'est comme une ville d'espoir après le 11 septembre, ainsi de suite. C'est pas le même du tout New York qu'il y a des années 80, 70 et 80. C'est une ville totalement changée, qui est rendue un petit peu trop trendy, très chère, vivre dans Soho, des places comme ça, les Bronx, le Queen, tranquillement, ça devient de plus en plus hip, hipster tendance. Donc, c'est pas le même New York du tout. Puis, il y avait des petites techniques qui ont été entreprises. J'écoutais Malcolm Gladwell, sans passer en parenthèse, ceux qui connaissent pas Malcolm Gladwell, c'est un vulgarisateur économique sur la finance, sur bien de choses dans le monde, très, très connu. New York Times, best-seller, on and on and on. C'est une espèce de gars qui ressemble à Sideshow Bob. Sincèrement, là, allez voir Malcolm Gladwell, il ressemble à Sideshow Bob. Mais très intelligent, tellement intéressant. Il y a des podcasts aussi, Revisionist History. Écrivez ça quelque part, Revisionist History, avec Malcolm Gladwell, tellement bon. Ses livres... sur la finance aussi, c'est très basic sur comment faire de la business, mais c'est tellement bon. C'est pas une espèce de gourou, là, la Tim Robbins ou quoi que ce soit. C'est vraiment un gars down to earth, très simple, très bon. C'est très bon ce qu'il fait. Et lui avait expliqué justement ce changement-là de New York avec Giuliani puis tout ça. Puis lui, il l'expliquait d'une façon très intéressante, disant que les gens vont agir selon ce qu'ils voient autour. Je m'explique. Si vous arrivez dans une pièce, disons que vous prenez, je sais pas moi, 10 adolescents. Vous arrivez dans une maison, puis toutes les fenêtres sont pétées, puis il y a des graffitis sur les murs. Donc, systématiquement, les jeunes vont se mettre à démolir tout. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un bâton, ils vont verger, ils vont démolir les murs, ils vont péter les fenêtres qui restent, qui ne sont pas encore pétées. L'être humain est fait comme ça. C'est-à-dire que les gens vont agir en conséquence de l'environnement. Si vous prenez la même maison, super clean, super propre, les fenêtres propres, là, ça se peut qu'il y ait le même pourcentage qui a le goût de tout démolir, mais... ça va être plus difficile. Les autres n'embarqueront pas parce que la maison est propre. Ça. Puis ça va être, c'est comme un crime dans leur tête, du moins plus important, parce qu'ils détruisent quelque chose de construit. Ils détruisent vraiment quelque chose dans leur tête qui avait un sens. Donc, Giuliani connaissait le principe. Le métro de New York, à l'époque, était très dangereux, criminalisé à fond. Puis les rames de métro étaient dégueulasses avec des graffitis. Et il a fait un programme. C'est une des choses qu'il a faites, mais ça voulait voir un peu le principe de base. Ce qu'il a réussi à faire, il s'est dit, regardez, les gens... font de la merde, puis graffiti, puis respectent pas le métro parce qu'il est sale. Donc, les gens se disent à quoi ça sert vu que c'est sale, donc la majorité embarque pas. Donc, il a fait une station à la fin, donc les stations de métro ont une boucle à la fin. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais j'imagine, tu sais, à toutes les 15 minutes, ils arrivent au bout, puis ils revirent de bord. L'endroit où ils revirent de bord, là, les gens n'ont pas accès à ça. Là. C'est comme un endroit où il y a l'aiguillement, ainsi de suite. Eux, ils ont mis une station de peinture. Donc, les jeunes faisaient des graffitis durant les 15 minutes de la route. Quand ils arrivaient au bout, ils repeinturaient tout. Flock! En 2-3 minutes, il y avait une cinquantaine de personnes qui arrivaient avec des rouleaux, puis ils remettaient ça à neuf. Donc, les jeunes se sont écœurés. À force de faire des graffitis, ils se sont dit, voyons donc, ça marche pas. J'arrête pas de faire des graffitis, puis il revient deux minutes après, puis il est propre. Donc, tranquillement, pas vite, les gens se sont mis à respecter le métro, puis à changer littéralement de façon de fonctionner. Complètement. Les gens sont mis à arrêter d'être violents, arrêter d'être... Bon, il y a toujours eu du crime, il va toujours avoir du crime en société, mais je veux dire, les gens agissent, en lien avec leur entourage. C'est comme ça que le monde agisse. Donc, Giuliani a fait quelque chose d'absolument débile, d'exceptionnel, de merveilleux, en faisant ça, en amenant New York en étant une ville complètement différente. Et il était aimé et adulé, Rudy Giuliani, pour ça. On parlait même à un certain moment de se présenter à la présidence, que Giuliani, la prochaine étape logique, c'était ça, là, parce que c'est un républicain. C'est sûr qu'à New York, pour un républicain, c'est plus difficile, mais on a eu l'exemple de Donald Trump, qui est, entre parenthèses, un républicain, qui a été élu à partir de New York. Et justement, en parlant de Donald Trump, on arrive à Donald Trump, Giuliani devient l'avocat personnel de Donald Trump. C'est arrivé il y a à peu près un an. Giuliani arrive, c'est parce que, bon, Donald Trump, c'est deux personnes, dans le fond. C'est le président des États-Unis, POTUS, ben et c'est aussi un homme. Donc, il y a l'homme Donald Trump, il y a le président. Le président des États-Unis a toute une armée d'avocats, mais fournis par l'État, dans le fond. C'est-à-dire que c'est l'État qui paye pour protéger l'institution, protéger l'homme en tant que président américain. Il a droit à sa défense, donc il y a des avocats payés par le gouvernement. Mais l'homme, Donald Trump, existe encore, et lui aussi peut être dans le trouble, et non seulement, et Dieu sait que cet homme-là est capable de se mettre dans le fucking trouble, et protégé, lui, personnellement, avec son argent, par Rudy Giuliani, qui est un avocat à la base. Mais Giuliani se met les pieds dans les plats depuis un an, mais de façon hallucinante. Il essaie de protéger le... Tout le monde qui a le moindrement un deux scènes d'analyse dans le cerveau se demande pourquoi Donald Trump laisse Giuliani continuer à parler en son nom. Il le met dans le trouble, mais systématiquement. Pourquoi? Premièrement, je pense qu'il le met dans le trouble parce que Donald Trump devrait être dans le trouble avec sa façon d'agir et tout ce qu'il a fait dans le passé. Mais encore aujourd'hui, puis là, c'est l'une des dernières nouvelles qui est sortie, qui est communiquée partout, dont on parle à peu près sur tous les postes. Giuliani, tranquillement, fait un peu des tours d'avocat, mais c'est tellement gros, il est tellement pas fin, Giuliani. Il est tellement pas le petit détail, tu sais. Fait qu'il fait tellement les choses gros que c'est ridicule tellement que c'est évident. Parce que, bon, jusqu'à récemment, le discours du président, c'était « j'ai jamais eu de collusion avec les Russes, ni moi, personnellement, et ni personne autour de moi que je connais, ni ma campagne électorale. » Donc, le discours a toujours été, jusqu'à aujourd'hui, « personne autour de moi n'a jamais fait de collusion, essayé de participer ou quoi que ce soit avec les Russes, ni moi, personnellement, Donald Trump, ni tout le monde qui est autour de moi, donc mon fils, mon beau-fils, ma fille, tous les gens qui participaient, donc les gens, Paul Manafort, que ce soit, c'est toute personne n'a rapport là-dedans. » Aujourd'hui, Giuliani, out of nowhere, fait une entrevue à CNN. Non, c'est hier soir qu'il fait une entrevue à CNN. Donc, il n'y a pas de rien pour rien dans ce milieu-là. Si Giuliani sera à CNN en plus, qui est un réseau assez adversaire à Trump, c'est qu'il y a un message à passer. Et voici le message de Rudy Giuliani. Il arrive là bien sérieux en disant, « Écoutez, nous, on ne sait pas s'il y a eu de la collusion avec du monde autour de la campagne. Ce qu'on sait, qu'on a toujours dit, c'est que Donald Trump, personnellement, n'a jamais entendu parler de collusion. » Donc, voyez-vous ce qui se passe, ce qu'ils sont en train de faire, puis ils le font tellement mal. C'est tellement ridicule. Donc, je répète, le discours a toujours été que personne autour de lui. Dans le fond, le président, ce qu'il faisait à l'époque, jusqu'à hier, c'est qu'il protégeait les gens autour de lui, puis il se disait « le bateau coule, mais on va couler ensemble ». Et hier, ce que le président des États-Unis a fait avec l'aide de son avocat ridicule qu'est Rudy Giuliani, c'est d'abandonner le navire puis de partir dans une petite barque toute seule. Carrément. Ce que Donald Trump a fait par l'entremise de son avocat hier, c'est de dire « regardez, ça se peut que le monde autour de moi ait fait de la merde puis ait fait demander aux Russes ci et ça, pris de l'argent à gauche puis à droite pour ci et ça. Ça se peut, mais moi, Donald Trump... »
I was a really good student at the best school. I'm not like a smart guy.
Okay, smart guy. Moi, Donald Trump, a aucune idée de tout ça. Donc, c'est rendu à la dernière défense. Tu sais, quand t'es au pied du mur, t'es fucking au pied du mur, là. C'est de dire, regarde, je sais pas pour les autres, allez tout chier, manger de la merde, même si c'est moi qui vous ai demandé de faire tout ça. Manifestement, j'étais le chef de la campagne, c'était ma campagne. Bon, si vous avez fait de la merde, c'est pas mon problème, moi, j'en ai jamais fait. Et c'est ce qu'il a fait par l'entreprise de Giuliani hier dans le show de Cuomo. Chris Cuomo, qui est le fils d'un sénateur américain, qui a un très bon show en passant à CNN, Cuomo Primetime, très émotif. Les gens vont dire, t'écoutes CNN, ben oui, il y a des bonnes choses qui se passent à CNN, il y a des choses qui se passent un peu partout d'intéressantes. Si vous connaissez les nouvelles et la politique, il n'y a rien de dangereux à écouter quelque chose comme CNN. C'est teinté de droite, de gauche plutôt, mais il y a des très bonnes choses qui se passent. Et Chris Cuomo, hier, a interviewé Giuliani, qui a fait la nouvelle cassette. Et là, c'est comme, voyons donc, il va aller jusque où? Pour se défendre puis s'en sortir. C'est vraiment le gars qui pile sa tête des autres. il pile, en voulant dire, je m'en sac, moi, c'est tant qu'est moi, Donald J. Trump va s'en sortir personnellement. Le reste, que vous alliez tout chier, que vous mangez de la merde jusqu'aux oreilles, j'en ai rien à cirer. C'est là où on s'en va. Donc, c'est ça, c'est les deux vies de Giuliani. L'homme qui a sauvé New York, que j'admirais, et le nouvel avocat Donald Trump, qui est un absolu, qui est une merde ambulante sur deux pattes, qui a zéro talent. Les sentinelles de l'air, que j'ai pas connu en passant. Je suis beaucoup trop vieux pour ça. Trop jeune, plutôt. J'ai pas connu ça. J'ai aucune idée c'est quoi, les sentinelles de l'air. Je l'ai pas connu, je l'ai pas vécu. C'était juste pour faire un lien. Bon. On sait que les Américains veulent faire absolument une division. Il y a présentement des... ils veulent faire... Comment je peux l'expliquer? Comme ça, on va l'expliquer de cet angle-là. Les Américains ont plusieurs divisions de l'armée. Dans le fond, vous avez la Navy... vous avez l'Army, puis vous avez le Air. Donc, c'est les trois. Puis il y a aussi les Coast Guard, qui est un quatrième. Là. Donc, vous avez toutes des divisions, mais vraiment différentes. Ce n'est pas administré par les mêmes personnes. Ce n'est pas la même façon de penser. Ce n'est pas le même budget. Ils ont accès aux mêmes armements. Mais juste un exemple, la Navy, donc comme dans le film Top Gun, la Navy, et le Air, les deux ont accès à des exemples au niveau F-35 Raptor. Ou le F-22, tout dépendant où vous êtes rendu. Donc, ils ont accès au F-35, à la technologie. Les deux sont américains, mais ils ne vont pas le modifier de la même façon. C'est-à-dire que le Navy va demander certaines choses par rapport aux besoins qu'ils ont, puis le Air Force, eux, vont demander les besoins par rapport à ce qu'ils ont. Donc, c'est complètement différent. Et pour l'instant, toute la division de l'espace est administrée sous la tutelle de la Air Force. Donc, la Air Force gère les satellites s'il y a une attaque sur les satellites. Et on sait que présentement, clairement, la prochaine guerre, s'il y a une guerre qui s'en vient ou s'il y a un conflit majeur qui s'en vient, va être en partant spatial. C'est-à-dire qu'on parle pas d'une navette comme dans Yann Solo, là, puis qui arrive et qui fait ça avec l'espèce du trou noir là-bas, puis c'est pas de même. On parle pas de ça encore. Là. Mais je parle simplement d'anéantir en partant ce qui est dans l'espace, c'est-à-dire les satellites minimum. Parce que la plupart des bombes, tout ce qui est géré, tout ce qui est précis, tout ce qui donne la supériorité américaine pour l'instant, est en grande partie dû à ce qu'il y a dans l'espace, c'est-à-dire les satellites, puis la précision des satellites. Donc, on sait que la prochaine guerre va, en partant, essayer de détruire ça. Donc, les Américains veulent créer une division Space Force, littéralement. Là, on est rendu là, d'avoir le Space Force. Il y a un combat à l'interne. C'est sûr qu'il y a un énorme budget qui va être alloué au Space Force pour, justement, gérer ça, faire ça, puis avoir sa propre identité. Donc, il y a la Air Force qui, elle, dit, parce qu'elle a déjà le budget pour l'instant, parce que c'est elle qui gère les satellites, veut pas perdre ce privilège-là, c'est ça. Elle dit, c'est nous autres qui devraient le gérer. Pourquoi faire une nouvelle entité? Ça sert à rien. Ça coûte du cash pour rien, ce qui n'est pas faux. Puis nous, on va très bien le gérer dans le Air Force. Puis bon. Et il y a une autre gang de monde qui trippe un peu Star Wars ou Star Trek, qui veulent voir arriver la Air Force, dont la Star Force. Donc, dont Donald Trump, qui, lui, veut absolument avoir une Star. Il trouve ça mignon. Il n'arrête pas d'en parler. Et tout ça pour dire que je ne sais pas si ça va arriver ou pas, j'ai l'impression que tout le monde va aller vers une Star Force juste pour avoir une nouvelle écusson, puis un nouveau ci, puis un nouveau ça. Mais juste on décide, il y a un nouveau show qui arrive, puis c'est léger ce que je voulais dire par rapport à ça. Là, j'ai commencé avec toute la Star Force, mais Steve Carell, que j'adore, que vous connaissez, Steve Carell, qui a fait The Office, Steve Carell, qui a fait le trois quarts des films, dans le fond, qui est passé sa terre depuis un an, depuis 10 ans même, Steve Carell, qui est partout, qui est même nommé aux Oscars présentement pour son dernier film. Ils vont faire une nouvelle série, un peu, avec le même producteur, le même réalisateur que The Office. Ça va s'appeler Space Force. Ça va être débile. Je sais pas quand il va sortir. Netflix qui le finance, donc ça va être sur Netflix. Ça va être Space Force, carrément. C'est un commandant de l'espace qui est dans la Space Force, qui est Steve Carell, avec toute son imbécilité. Un peu style, j'imagine qu'il va être un gars un peu comme dans The Office. Un peu imbécile, un peu nono. C'est la recette qui fonctionne bien avec Steve Carell en humour. Fait qu'ils vont sortir ça, le Space Force. Je sais pas quand il s'en vient. J'ai pas de date, j'ai pas vu quand ça s'en venait. J'ai vu un petit preview pour aller voir Steve Carell Space Force. Ça a l'air génial. Sincèrement, ça a l'air pas pire. Ça a l'air vraiment pas pire. Donc, c'est juste un petit à côté comme ça, là, si ça vous tente, si vous aimez Steve Carell. Puis, on va revenir aussi sur Space Force, quand il va avoir le vrai Space Force, quand il va avoir des développements. Je vais vous tenir au courant là-dessus.
광명성 3호 2호기 위성 발사 성공.
Encore, je vais leur faire une... Écoutez, non, on fait ça une autre fois, là, c'est trop mignon. Ah, comment ça, ça fait ça? Non, merci. Écoutez bien ça, vous êtes prêts? Ça, c'est la fameuse animatrice de téléjournal nord-coréenne. C'est elle qui anime le téléjournal. Elle est habillée un peu comme une poupée de votre grand-mère qu'elle a dans sa chaîne. Elle est habillée en rose avec des fleurs partout. Puis elle gueule solide, puis elle parle de son grand vénéré Kim Jong-un. Pis... En tout cas, anyway, j'ai juste mis un extrait quand je parle de la Corée du Nord. J'ai deux nouvelles sur la Corée du Nord, dont une qui va avec ce qui se passe présentement, mais une qui, moi, je sais pas vous autres, là, mais moi, celle-là, elle me fessait. Elle me fessait. Je trouve ça dégueulasse en même temps, mais bon. Ça, le nom de l'article, c'est sur Al Jazeera. Ça dit « North Korea Secret Money », donc l'argent secret de la Corée du Nord. Quand j'ai eu le coup, j'ai vu « l'argent secret de la Corée du Nord », de quoi le fuck qui parle? Fait que je suis allé voir, puis sincèrement, c'est tellement incroyable. Ça dit Kim Jong-un, donc le dieu nord-coréen, comment il s'appelle? Kim Jong-un, l'ultime leader, je pense. Il se donne un nom un peu à la Raël, mais fois mille. Donc lui, ce qu'ils ont fait, c'est que depuis une dizaine d'années, même une quinzaine d'années, ils ont envoyé 150 000 Nord-Coréens travailler à travers le monde. Donc imaginez 150 000 Nord-Coréens qui, l'ont laissé partir, parce que techniquement, c'est un endroit duquel tu ne peux pas partir. Mais si tu t'en vas pour X raisons, ils peuvent, par exemple, on les laisse partir. Il y en a 150 000, donc, à peu près, là, qui sont partis pour gagner de l'argent pour lui. Non, c'est vraiment le total, l'idéal, l'esclavage 2.0. Imaginez, 150 000 qui travaillent à travers le monde, donc au Koweït, à Singapour, tous des endroits, donc ton salaire. J'imagine que dans le règlement, tu peux te garder le minimum pour vivre, puis le minimum, ça doit être genre un appartement de marde, puis tu manges du pain puis de l'eau. Et le reste, tu l'envoies au leader en Corée du Nord. Donc, c'est sa façon de faire du cash. C'est une, du moins, de ces façons, parce qu'il y a un État qui est problématique. Il y a des embargos contre lui. Il y a plein de merde, dans le fond. Il y a de la misère à se faire du cash. Donc, il a envoyé au minimum 150 000 workers à travers le monde. Ils disent « Allez travailler, mes petites abeilles. » Fait qu'ils sont partis à travers le monde, puis le cash lui rapporte des milliards. Tu sais, c'est 150 000. Imaginez, 150 000 travailleurs. Ce serait une bonne affaire pour l'Auto-Québec, ça. La nouvelle loterie, tu sais, gagner à vie, travailleurs à vie. Genre, tu gagnes 1 000 travailleurs à vie qui vont travailler pour toi. Ce serait cool, ça. Travailleur à vie. Ben lui, il a gagné ça, notre ami Kim Jong-un, notre ultime leader avec son suit de patapouf. Ben, on parle de 150 000 à peu près, ils n'ont pas le nombre exact, mais que ça amène des milliards de dollars. Imaginez les salaires de 150 000 personnes à travers le monde qui te font un wire à chaque paye. Puis ça, c'est sa façon, l'ultime leader. Il se sent même pas mal, lui, en passant. Il en est fier, il en est heureux. Il trouve qu'il est sa coche, le Kim Jong-un leader. C'est dégueulasse. Il n'a rien à foutre. Ce qu'il veut, c'est lui-même, comme tout le monde, dans le fond. T'sais. Son but, c'est sa propre personne. Il veut sa propre façon de faire. Il va chier. Va chier Kim Jong-un, sincèrement. Aucun respect pour l'être humain, c'est assez... c'est assez évident. Là. C'est assez évident. Anyway.
Assassinations are at once big and small. They can move history, but in their detail, they move us too. Dramatic moments of courage, scheming, deception, jeopardy, and power relationships turned upside down.
Est-ce que c'est ça? C'est
Americans of a certain age remember where.
C'est l'intro d'un documentaire, d'un podcast. Puis je parlais tantôt du podcast en question que je vous ai suggéré. J'en ai un autre, puis ça, c'est une forte suggestion. Si vous êtes des amateurs de podcast, ou du moins si vous voulez savoir si vous êtes un amateur de podcast, des fois, tu n'es pas au courant, tu te dis « je suis un amateur de podcast ou pas ». La BBC en a fait un essentiel que j'ai dévoré. C'est 10 épisodes d'une heure, donc c'est 10 heures, mais tu peux les écouter tant que ça te tente. C'est merveilleux. C'est merveilleux, 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 merveilleux. C'est une des meilleures séries de podcasts que j'ai entendues. Je vais en donner d'autres à vous donner durant les semaines. J'en ai plusieurs, une 10-15 de séries comme ça que j'ai trouvées. Tu sais, quand t'en as pas assez, là, tu l'écoutes et tu te dis non, j'en veux encore. Celle-là, ça s'appelle The Assassination, donc l'assassinat. Il y a au Pakistan une femme qui s'appelait Benazir Bhutto, qui était la fille d'un ancien leader du Pakistan, qui est revenu... c'est un homme qui avait été assez corrompu. Son père au Pakistan a beaucoup de corruption. Son père avait été corrompu, donc elle était milliardaire, était sauvée en Angleterre. Et contre toute attente, cette femme-là, Benazir Bhutto, qui est une jolie femme dans la cinquantaine, a décidé de revenir au Pakistan pour se présenter aux élections. Contre toute attente, parce qu'elle avait des menaces de mort left and right. Le président à l'époque, qui était un président militaire, qui était... Ça, juste, il y a deux secondes, je viens de l'oublier. Ça va m'en revenir. Anyway. Moucharaf. Le président Moucharaf, qui était là, qui était un président... Parce que la junte militaire au Pakistan est très puissante. T'as beau être président, t'as beau être élu, si t'as pas l'armée derrière toi, t'es dans le trouble. Donc, Moucharaf était le président, le directeur, le général de l'armée. Donc, lui dirigeait. Puis l'enquête en question, c'est un journaliste émérite du BBC qui fait une enquête en 10 épisodes sur qui a tué Benazir Bhutto. Mais c'est débilement intéressant. Vous n'avez pas besoin d'aimer le Pakistan ou aimer la politique. C'est tellement le fun. Il connaissait personnellement, lui, Benazir Bhutto. Il est allé, il interview même à la fin Moucharaf dans sa maison. Moucharaf qui s'est sauvé à Dubaï, dans une espèce de gros penthouse à Dubaï. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Ça s'appelle The Assassination, l'assassinat sur la mort de Benazir Bhutto. C'est un 10 épisodes sur le BBC. Ça se dévore de façon absolument débile. C'est bien fait. L'accent british est merveilleux là-dedans. C'est vraiment une belle série podcast. Vraiment, vraiment une belle série podcast. Je vous suggère profondément, avec un R de Montréal, profondément. C'est bon, que je vous dis, c'est super bon. C'est super bon, puis ça mérite d'être écouté. Même, c'est vraiment une enquête en même temps. Là. Donc, celui-là, je vous le conseille aujourd'hui. Par la suite, ben, j'en amènerai d'autres, mais commencez par The Assassination. C'est, je l'ai aimé, moi. Je l'ai particulièrement aimé. Puis en passant, en parlant de... Yeah, Netflix! Je parlais de Netflix en tout avec ça. C'est encore une fois, double. Je parlais tantôt de Netflix avec la nouvelle série Space Force avec Carol. Netflix a annoncé à 58 millions d'utilisateurs aux États-Unis une hausse. C'est pas énorme, là. Je pense que la hausse qu'ils ont annoncée, c'est peut-être 14 sous. Je vais aller revoir en même temps que je vous parle. Netflix, c'est sur TheIndependent.uk. 9$ par mois, 58 millions. C'est quoi le montant? Voyons, Maxime, ça se fait pas. Donc, en tout cas, ils ont quand même monté, là. Ils ont monté de quelques scènes. Tu vois, 50 quelque sous. C'est 50 quelque sous. Ça, donc, mais tout ça pour dire, le montant est peu important. Vous allez dire, voyons donc, c'est pas cher Netflix. Je pense qu'on est à quoi, là? 12,99 canadien ou 12, 11, je sais pas. Vous allez dire, c'est pas important le prix. Mais ça l'est un peu parce que Netflix domine présentement. Bon, entre parenthèses, je dis ça, mais en même temps, il y a d'énormes joueurs qui s'en viennent cette année, là. Parce que l'avenir, c'est ça. Netflix l'a fait vraiment rapidement, a surpris tout le monde. Vous avez Hulu qui avait essayé, qui n'a pas fonctionné. Vous avez Crave qui le fait un peu. Il y a Prime avec Amazon qui le fait un peu tout croche. La plupart des gens, on est membre, on ne le sait pas, mais on a accès à Prime. Parce que quand vous commandez sur Amazon, puis vous avez le service Prime pour avoir livraison gratuite plus rapidement, vous avez aussi en même temps le service comme Netflix de Amazon. Puis il y a des bonnes affaires là-dessus. Là. Ils ont The Wonderful Mrs. Maisel, quelque chose comme ça. Là. C'est très bon. Mais bon, il y a une guerre qui s'en vient là-dessus. Apple arrive avec son propre service. Warner Brothers arrive avec son poste. Disney arrive avec son poste Disney. Donc, vous allez être membre. Puis bon, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir plein de segmentation. Donc, si vous aimez un peu de Disney pour les kids, vous aimez un peu de CPT, vous allez falloir être membre de 7-8 patentes parce qu'ils vont systématiquement ne pas shareer le contenu. Pour l'instant, Netflix a accès à beaucoup de patentes parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétiteurs. Mais éventuellement, tout le monde va rapatrier son stuff. Puis tout le monde va l'offrir comme ça, on demand. Mais Netflix, pour l'instant, monte tranquillement parce que est-ce que c'est rentable ou pas? Netflix a des beaux chiffres, une belle rentabilité, mais il veut grossir. Puis c'est clair qu'ils ne resteront pas à ce prix-là. Le prix est... Tu sais, il y a le prix de ce qu'ils nous offrent présentement pour réussir à gagner puis ramasser le marché mondial, mais il y a aussi ce que vous êtes prêt à payer. Moi, personnellement, c'est pas assez cher. Par rapport à ce que je paierais pour avoir Netflix, si vous me dites, moi, j'irais jusqu'à 29,99 présentement. Sincèrement, sans me poser de questions. Écoute, la plupart des familles prennent Netflix puis que tout le monde pige dans le lac dans le Netflix. Là. On fait pas mal tout ça, je pense. Là. On a un compte Netflix par famille puis tout le monde se le share puis tout le monde se partage le Netflix puis tu sais jusqu'à temps que ça exagère pour en prendre un deuxième. Mais tu sais, fait que ça diminue encore plus puis Netflix le sait. La façon que ça marche, c'est 3 licences simultanées, c'est la règle. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas 3 personnes qui se loguent en même temps, c'est 3 personnes qui écoutent en même temps. Donc, si vous avez 3 personnes qui écoutent une émission, exemple, vous avez le fils dans le sol qui écoute quelque chose, la famille principale, puis vous avez un neveu qui écoute quelque chose chez lui, s'il y a une 4e personne qui essaie de se connecter pour écouter quelque chose, ça va dire que les licences sont expirées, qu'il y a juste 3 licences. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est le principe de Netflix. Donc, moi, j'irais jusqu'à 29,90. J'utilise tellement Netflix, une fois par jour, des émissions des fois que je re-regarde comme Family Guy ou des nouvelles choses que je vais voir. C'est tellement partie intégrante, je pense, de nos vies Netflix présentement que 12$ par mois, c'est comme une joke. Ça ne paraît même pas sur nos cartes de crédit. On ne sait même pas que ça passe. C'est quasiment des frais de base. On ne voit rien aller. Fait que c'est clair, manifestement, Netflix laisse du cash à la table. Il laisse du cash. On serait tous prêts à payer jusqu'à 20 minimum, donc le double pour avoir le service de Netflix. Ce qui fait que ça ne va pas leur faire. Fait qu'ils le savent aussi, mais ils ne peuvent pas partir de 12, qui était un prix à l'époque pour gagner la Terre. Je pense que c'était 9,99 US. Quand ils ont starté, c'était pour ramasser tout le monde. C'était pas un prix logique, c'était un prix pour ramasser la planète, puis de faire du cash, puis de réussir à grossir, pour par la suite, tranquillement, monter tranquillement vers un montant qui est plus logique, un montant qui correspond plus à ce qu'on veut payer, notre capacité de payer pour le service, puis ce que ça vaut aussi, parce que c'est vraiment un beau service, Netflix. Il y a beaucoup d'argent investi. Ils en donnent pour le cash. Ils font des émissions à la tonne. C'est une belle affaire, Netflix, du moins. Mais on le voit, ils commencent à monter tranquillement le prix aux États-Unis, pas au Canada pour l'instant, mais ça va suivre. Là. Leur service principal étant aux États-Unis. Donc, ça va tranquillement s'en aller vers ça, je pense. Là. En tout cas, du moins. Mais je vous dis, moi je serais prêt à payer jusqu'à 24% et anyway, fait que je m'en contre... Ça se dit-tu, je m'en contrefous? Je sais pas. Je vais mettre ça pour la prochaine nouvelle. Faut que je mette ça à chaque fois, au moins. Il y a une espèce de... C'est la dernière nouvelle que j'ai pour vous autres aujourd'hui. Il y a un phénomène, c'est la deuxième en quelques jours. Il y en a une qui est au Canada, une jeune femme de l'Arabie Saoudite qui s'est réfugiée au Canada. Vous avez peut-être vu ça passer dans les nouvelles. Elle se sauve de sa famille parce qu'il y a une espèce de fierté familiale, l'honneur familial qui est très importante au niveau du Coran puis au niveau de la religion musulmane quand elle est extrêmement appliquée. C'est-à-dire que quand ta fille, particulièrement, donc très sexisme, très, une religion qui est très, très masculine, donc quand ta fille te déshonore, c'est-à-dire que si ta fille est moindrement sexy, puis on parle de sexy, on parle de même pas mettre le voile, exemple, ou si elle sort avec quelqu'un que tu lui as pas permis. Donc, le moindre déshonneur que ta fille fait dans cette philosophie-là d'extrémiste musulman, la famille, donc, est déshonorée, puis automatiquement doit prendre des mesures qui vont jusqu'à la mort. Et c'est arrivé au Canada, il y a eu une grosse enquête dans les années 2000. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le père qui avait pris ses deux jeunes filles, je pense que c'était Choufi, il a pris ses deux filles, puis ils avaient tiré parce qu'ils avaient lancé l'auto dans l'eau. Toute la famille avait aidé, le frère, la mère. C'était dégueulasse. C'était en Ontario que ça s'était passé. Mais donc, il y a de plus en plus de jeunes adolescentes saoudiennes qui foutent le camp, ou du moins qui prennent les réseaux sociaux pour se protéger. C'est-à-dire qu'ils font connaître leur histoire à travers le monde, à travers les réseaux sociaux, pour que les gens, finalement, les protègent, entre parenthèses, en disant « Regarde, on vous regarde, là, qu'est-ce qui se passe? » Il y en a une qui est rendue au Canada, qui s'est sauvée parce que sa famille trouvait qu'elle était un petit peu trop nord-américanisée. Ils voulaient la buter, littéralement. Puis il y en a une nouvelle qui, par Twitter, essaye de se sauver encore une fois. Donc, ça starte de plus en plus. Là. On parle de jeunes. Elle s'appelle Nahoud Al-Mandil. Elle a mis des clips sur son Twitter en disant « Écoutez, je suis en danger. Ma famille veut exécuter les lois de la charia, n'aime pas ma façon de vivre. » Qui n'est pas, écoutez, comparé à notre façon de vivre nord-américaine avec le Tinder qu'on a ici et toutes les cochonneries qu'on fait, c'est pas ça, là. On parle de jeunes filles qui veulent simplement être une jeune fille en 2019. Bien, il y a tout un espèce de mouvement, puis ça commence, il commence de moins. Se sauver, c'est pas toutes qui ont les moyens de pouvoir foutre le camp. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre l'avion puis de se sauver demain matin, surtout de l'Arabie Saoudite quand tu es une fille. Mais du moins, on voit qu'il y a une tendance de prendre les réseaux sociaux puis de se donner une certaine sécurité avec l'œil du monde, dans le fond, sur nous. Ça vaut ce que ça vaut, parce que l'Arabie Saoudite fait ce qu'il veut. On a parlé dans le dernier podcast, il y a deux jours, de Khamenei qui a été assassiné à l'ambassade en Turquie. Donc, c'est pas ça qui les arrête, là. T'sais, c'est pas une famille saoudienne ne va pas s'arrêter nécessairement parce que tout le monde sur Twitter regarde ta fille, mais ça aide. C'est sûr que ça aide. Il y a une gêne, il y a une espèce de malaise. Automatiquement, c'est nouveau pour eux aussi. Donc, ils se voient un peu confrontés à la reste de la planète, les gens les regardant en disant « Tu vas faire quoi, là, parce que ta fille a mis un décolleté un peu trop sexy ou qu'elle n'a pas voulu marier le gars qui a un uni-sourcil que tu lui as proposé. » Tu sais, c'est ça, là. C'est ça. C'est carrément ça. Fait qu'on va suivre ça de plus en plus, mais il y en a de plus en plus de jeunes femmes, jeunes filles comme ça, qui se protègent comme ça puis qui veulent vivre une vie, du moins, un peu plus normale, le faire avec leur choix. Puis, tu sais, c'est sain, je pense, du moins. J'ai pas les mêmes valeurs que ces gens-là, mais sincèrement, de là à abattre ta propre enfant ou de la punir comme eux veulent les punir, c'est dégueulasse. Donc, c'était la dernière affaire que j'avais aujourd'hui. Plein de petites affaires rapides que j'avais, mais hyper intenses et intéressantes. Demain, on est vendredi, donc le dernier de la semaine. D'autres affaires qui s'en viennent, d'autres petites patentes intéressantes. Merci encore une fois. Bonne fête à mon fils Antoine, que j'aime. Antoine, happy birthday, my son.
Mais monsieur, c'est beaucoup trop de boules.
C'est jamais trop de boules. Et donc, c'est ça. Merci pour tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter Today. Des belles choses qui s'en viennent en passant, des pourparlers, des belles choses qui peuvent aboutir ou pas, tout dépendant de comment les choses vont aller. Mais vous allez voir, il y a des belles choses qui s'en viennent. Dernière chose, on est, je suis vraiment partout. Je suis sur Parcast, je suis sur Cast, je sais pas quoi. Je suis sur toutes les patentes, dans le fond, Apple Podcast, Spotify. Je suis un peu partout, donc vous pouvez aller chercher les versions quotidiennes de la meilleure façon que vous voulez, puis vous pouvez être heureux de même. Puis comme je dis tout le temps, je vous aime gros comme le bras.